Le journal, présenté par Marion Chantreau.
Bonjour à tous. C'est le grand jour pour Arnaud Montebourg. Il devrait se déclarer candidat à la présidentielle ce dimanche à Frangy-en-Bresse, où l'on fête la rose. Va-t-on vers un duel fratricide entre lui et Benoît Hamon ? L'analyse de Laurence Perron. Au moins 30 morts dans un attentat à Gaziantep, au sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. L'explosion survient au lendemain d'un discours du Premier ministre turc, dans lequel il enjoint son pays à jouer un rôle plus actif pour résoudre la crise en Syrie. Valérie Crova reviendra sur ses relations entre meilleurs ennemis. La situation des enfants en Libye inquiète les Nations Unies. Ils sont près de 300 000 déscolarisés dans le pays, alors que les combats font rage entre forces du gouvernement d'Union et djihadistes. Et puis l'Islande, assaillie par les touristes, le nombre de visiteurs a été multiplié par 3 en 3 ans. Les raisons de cette attractivité, on voit ça en fin d'édition. Arnaud Montebourg entre en lice ce dimanche dans la course à la présidentielle de 2017. Il devrait annoncer sa candidature lors de la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Un discours d'une heure prévu devant un millier de partisans, dont une quinzaine de parlementaires. Son ancien acolyte Benoît Hamon, qui lui aussi a quitté le gouvernement il y a 2 ans, s'est déclaré il y a 3 jours seulement. Les deux frondeurs se lancent dans un numéro de duettiste savamment orchestré, Laurence Perron.
Qui pour croire vraiment à une guerre fratricide entre les deux camarades de fronde, éjectés ensemble du gouvernement pour une cuvée du redressement que François Hollande avait assez peu goûté? Si on pose l'équation de manière purement politique, Arnaud Montebourg, c'est l'arme anti-Hollande. Si le président y va, et si la primaire est loyale, sous-entendu si son périmètre est aussi large qu'en 2011, ça fait beaucoup de si, alors naturellement Benoît Hamon finira par faire alliance avec l'ancien ministre de l'économie pour tuer la candidature du président. Benoît Hamon, c'est le missile anti-Valls. Si François Hollande, sans qu'il risque de ne pas être qualifié pour le second tour, en gros, si les sondages le donnent à moins de 20%, il n'ira pas, et auquel cas c'est Manuel Valls qui pourrait le remplacer. Et là, c'est la tête du Parti Socialiste qui se trame, et sa refondation. Dans ce cas, Benoît Hamon pèse aujourd'hui plus lourd qu'Arnaud Montebourg, qui a déserté Solferino pour Habitat. Outre la motion des fondeurs, il pourrait compter aussi sur les amis de Martine Aubry, bien moins montebourgeois compatible et absolument pas valsiste. La vraie guerre se jouera là.
Arnaud Montebourg qui devrait détailler 25 propositions pour la France, à Frangy-en-Bresse. On ignore encore s'il se soumettra à la primaire de la gauche prévue en janvier ou s'il se présentera en dehors du PS. En tout cas, selon un sondage IFOP pour Ouest-France dimanche, moins d'un quart des Français estiment que le Parti Socialiste a un projet crédible pour la France, soit 23% des personnes interrogées. C'est 4 points de moins par rapport à l'édition 2015 de cette enquête. Un attentat à Gaziantep, au sud de la Turquie, a fait 32 morts hier soir et 94 blessés. Une explosion survenue lors d'un mariage en pleine rue dans un quartier à majorité kurde. Le président Recep Tayyip Erdogan pointe du doigt le groupe État islamique, mais dit dans un communiqué ne faire aucune différence entre les djihadistes, les rebelles kurdes du PKK et même le prédicateur en exil, Fethullah Gülen, accusé du coup d'État manqué du 15 juillet. Cet attentat à Gaziantep survient au lendemain d'un discours du Premier ministre turc au cours duquel il appelle son pays a joué un rôle plus actif pour résoudre la crise en Syrie. Bachar el-Assad est présenté comme un des acteurs à qui il faut parler pour aller vers une transition politique, sans pour autant le voir conserver son fauteuil de président. Ce changement de ton s'explique par une politique extérieure changeante d'Ankara, mais aussi par la menace que constituent pour la Turquie les mouvements kurdes. Erdogan cherche par tous les moyens à contenir leur velléité expansionniste. Valérie Crova.
C'est l'une des conséquences du rapprochement récent entre la Russie et la Turquie, qui se traduit aujourd'hui par un ton nettement moins belliqueux du pouvoir turc vis-à-vis du président syrien dont Ankara n'a eu de cesse de réclamer le départ. Les deux frères ennemis ont aujourd'hui des intérêts convergents. Pour Erdogan, le rapprochement avec Moscou a pour but d'infléchir le soutien russe au mouvement séparatiste kurde qui risque de déborder sur son territoire. Pour Damas, il s'agit d'obtenir par l'intermédiaire de son allié russe que la Turquie mette un terme à son soutien aux groupes armés qui se battent contre l'armée de Bachar el-Assad, quitte à donner des signes concrets comme les bombardements avant-hier de l'aviation syrienne à Asaké dans le nord-est de la Syrie, une région où les combattants kurdes contrôlent de vastes zones leur permettant d'asseoir leurs revendications territoriales. Les Kurdes étant devenus l'une des principales cibles d'Erdogan, il lui faut composer avec Vladimir Poutine, Bachar el-Assad et bien sûr l'Iran, mais le président russe pourrait tout aussi bien garder en réserve les cartes kurdes comme moyen de pression sur son homologue turc, auquel il n'accorde qu'une confiance limitée. Les deux hommes ont en commun les mêmes rêves hégémoniques.
En Libye, les combats se poursuivent autour de la ville de Sirte, à l'est de la capitale, Tripoli, où les forces du gouvernement d'union libyen, soutenues par l'ONU, mènent depuis le mois de mai l'assaut contre les troupes du groupe État islamique. En marge de ces combats incessants dans le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi il y a 5 ans, la situation des civils reste préoccupante et les Nations Unies ont décidé d'alerter l'opinion, Sarah Mackey.
La situation des enfants en Libye inquiète tout particulièrement les Nations Unies. Ainsi, il serait 300 000 déscolarisés à travers le pays. L'ONU souligne également un manque de médicaments, de vaccins et de services hospitaliers précaires. Une situation que confirme le docteur Khalil, le représentant spécial pour la Libye de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
Le secteur de la santé, c'est un secteur qui souffre toujours beaucoup en Libye parce que il y a beaucoup de problèmes administratifs. Par exemple, l'UNICEF a amené il y a quelques mois 1 500 000 doses de vaccins de polio. Alors, on est en train d'essayer et de voir comment on peut fournir aux enfants tous ces vaccins.
Pas facile en effet de coordonner l'intervention dans le pays, d'autant que l'UNICEF, comme d'autres organismes, a vu ses fonctionnaires internationaux contraints de quitter l'année dernière la Libye. L'organisme a aujourd'hui encore 15 personnes sur place et travaille sinon avec des organisations nationales. Une situation qui touche toutes les ONG internationales de moins en moins nombreuses sur le territoire. Il en reste moins de 5 aujourd'hui encore basées à Tripoli. Difficile donc dans ces conditions de venir en aide aux millions de Libyens et migrants victimes d'une crise humanitaire qui, selon les Nations Unies, s'aggrave chaque jour un peu plus.
Sarah Mackey, direction les États-Unis à présent, où quiconque souhaite accéder à la Maison-Blanche voit sa vie privée épluchée dans les moindres détails. Le New York Times vient d'enquêter sur les affaires de Donald Trump et il en ressort que les sociétés du candidat républicain cumule plus de 650 millions d'euros de dettes. C'est bien plus que ce qu'il avance durant sa campagne à Charlotte Alix.
Donald Trump martèle qu'il pèse plus de 10 milliards de dollars, ce que de nombreux experts contestent. Mais la santé de ses affaires demeure un mystère. Pour tenter d'y voir plus clair, le New York Times a fait appel à un institut d'études spécialisé dans l'immobilier pour enquêter sur une trentaine de ses propriétés, en particulier ses immeubles de bureaux. Il en ressort que rien que sur ses propriétés, l'empire Trump doit à ses créanciers au moins 650 millions de dollars, plus du double de ce qu'il a déclaré à la commission électorale. Et si l'article du New York Times parle d'un labyrinthe pour décrire la structure de cet empire, c'est que les affaires de Donald Trump sont une imbrication de partenariats avec une grande variété de structures. Avec ironie, le quotidien relève que parmi ses créanciers, on retrouve Bank of China, la principale banque d'un pays que le candidat attaque à chaque discours. Mais ce que cette enquête montre surtout, ce sont les zones d'ombre qui subsistent, s'agissant de la supposée fortune de l'homme d'affaires. La pression devrait se faire encore plus forte pour qu'il rende public, comme le veut la tradition, sa déclaration de revenus, ce qu'il refuse de faire pour l'instant.
Allez, on traverse l'Atlantique pour s'intéresser au tourisme en Islande. Ces 3 dernières années, le nombre de visiteurs a triplé. L'office de tourisme de Reykjavik attend près de 2 millions de touristes en 2016. Ils n'étaient que 500 000 encore il y a 3 ans. Et cette économie touristique a un effet direct sur la croissance du pays. Croissance supérieure à 4%, Marion Aquilina.
Et c'est en ce moment, entre juin et septembre, qu'il y a le plus de touristes en Islande. Sébastien Labeau habite près de Grenoble. Il est parti fin juillet faire un tour de l'île pour ses vacances.
Même si le tourisme a pris une grosse part, je pense, de l'activité économique de l'île, ça reste sur des étendues qui sont très vastes et du coup, les personnes sont assez disséminées, je dirais, autour de l'île. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas de choses comme ça qui sont à supporter des fois sur certaines destinations effectivement plus prisées. C'est un tourisme plus orienté sur la nature, avec des paysages qui vont des grands espaces verts jusque des paysages presque désertiques dans les tons noirs. Et puis après, il y a toute la région volcanique en activité, où c'est les soufrières, la terre beaucoup plus rouge.
Et l'afflux de touristes aurait commencé en 2010, lors de l'éruption du fameux volcan Eyjafjallajökull, et puis jusqu'à cette année, où il y aura sans doute des records de fréquentation, d'après Ashildur Bragadóttir, la directrice de l'organisme Visite Reykjavik.
Avec les attentats en Europe et aux États-Unis, les gens se sentent sans doute plus en sécurité en Islande et Depuis cette année, quand l'équipe de football d'Islande a participé à l'Euro, les gens ont pu voir, notamment avec le fameux clap, à quel point les Islandais sont optimistes, respectueux, sympathiques.
Mais le pays veut déjà contrôler le flot touristique. Depuis le 1er juillet, les touristes qui veulent camper doivent aller dans des zones réservées, alors qu'auparavant, le camping sauvage était autorisé.
Le temps ce dimanche plus chaud qu'en Islande, 20 à 32 degrés attendus cet après-midi. Des averses de la Normandie à l'Alsace, le soleil dominera partout ailleurs.